On a un Dieu extraordinaire. Amen. Dis à ton voisin, on a un Dieu extraordinaire. Mais tu sais, Dieu, il est tellement bon, mais tellement bon, qu'il se soucie de chacun des détails de ta vie et qu'il ne t'abandonnera jamais. Dieu, il est tellement extraordinaire qu'il est venu sur cette terre, il s'est dépouillé de sa nature céleste parfaite pour venir sur cette terre jusqu'à la croix et mourir sur la croix par amour pour toi, parce qu'il a décidé que ta vie ait plus de valeur que ses souffrances sur la croix. Ce Dieu-là, il est tellement extraordinaire qu'il a choisi de te libérer de l'esclavage du péché. Ce Dieu-là, il est tellement extraordinaire qu'il est venu ici pour que nous soyons libres. On a un Dieu tellement bon. On ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas passer à côté du fait que Dieu, il a un projet pour ta vie qui dépasse le projet que n'importe qui d'autre sur cette terre pourrait avoir pour toi. C'est un projet parfait. Et là, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de religiosité, je ne parle pas de structure, je ne dis pas que tu dois faire ça, tu dois faire ça. La seule chose à faire, c'est accueillir ce Dieu extraordinaire en toi. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Cette semaine encore, mes amis, j'en parlais, vous savez, on a notre ministère là, au Lexington et auprès des étudiants. Et jeudi, on était 25 personnes, c'était hallucinant. On cherchait les chaises pour finir pour savoir où les mettre. Et ça n'arrête pas encore. Je vous dis, chaque semaine, il y a de nouvelles personnes. C'est waouh. Et cette semaine encore, je parlais avec quelqu'un qui était tellement touché par le message de Pâques la semaine d'avant. Puis je parle avec elle, puis je lui disais, mais c'est injuste que Christ, ce Jésus, elle ne connaissait rien du tout de la croix. Elle me dit, mais c'est injuste que ce gars, il avait aucun défaut, puis qu'il soit mort à la croix. C'est vraiment une mort injuste. Puis je dis, ouais, c'est clair, c'est une mort injuste. Elle me dit, mais j'arrive pas à le comprendre. Et ça l'a touché tellement. Et j'ai pu encore lui dire, mais tu sais, si Dieu il a fait ça, c'est parce que c'est pour toi. Si Dieu a fait ça, c'est parce que toi, en fait, comme moi, on le méritait. Mais il a choisi de le faire à notre place. Et tu peux l'accueillir dans ta vie. Tu peux juste accueillir cette puissance-là dans ta vie. Tu peux juste, il suffit juste de dire, Seigneur, je crois que tu l'as fait pour moi et je veux marcher dans un esprit de résurrection avec toi. Waouh, mes amis, ça c'est l'évangile. Et la France, mes amis, aujourd'hui, on va peut-être élire en président, mais ce président, il n'a que pour 5 ans. Mais la France, elle a besoin de voir un roi d'éternité régner sur son pays. Amen. Et sur nos vies, on a besoin de voir un roi régner dans nos vies. Et ce roi-là, c'est Jésus. Amen. Vous savez, encore jeudi, je parlais avec certains jeunes et puis, qui me disaient, ouais, franchement... on est hyper déçus de Macron, on espérait ça, il nous a promis plein de ça, et puis il n'y a rien du tout, alors franchement il faut du changement, et puis on veut du changement. On va changer, vous allez être déçus aussi de toute façon. Même si vous avez le meilleur des présidents, même s'il est suisse. C'est en Suisse, ça change tous les ans, c'est facile. Hein. On a 7 ministres qui dirigent le pays, et puis tous les ans, il y en a un, à tour de rôle, il y en a un qui préside en fait le Conseil des Sept. Et ils sont élus pour 4 ans. Et c'est même pas le peuple qui vont les élire, c'est ce qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale. Bref, mais peu importe que vous parlez le meilleur des présidents, vous allez toujours être déçus. On sera toujours déçus. C'est pas lui qui va sauver la France. C'est pas le président qui sera le sauveur de la France. Peu importe les lois qu'il met en place. C'est pas lui qui va te sauver. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années de ça, en fait, pas mal d'années, c'était un voyage de noces. Donc, il y a... Oh purée, ouais, bon, bref. Il y a un moment, on était en Australie et en Nouvelle-Zélande avec mon épouse. Et puis, on était sur une plage d'une île qui s'appelle Kangaroo Island, tout au sud de l'Australie, au sud d'Adelaide. Et puis... on a pris la voiture, on allait sur cette plage, on était des jeunes amoureux, il n'y avait personne sur la plage. C'était une immense plage, il n'y avait personne. Donc trop bien, on a fait les fous, on a couru sur la plage, on se poussait par terre, on roulait par terre, bref, on a des vrais gamins. Et puis, au moment de repartir à la voiture, on arrive à la voiture qu'on avait louée, et puis je prends mes poches, et puis ah ah non, plus de clé. Plus de clés. Et puis c'était pas une île, vous savez, une île bien bondée, c'était pas genre Majorque où il y a des constructions partout, non. Il n'y a même pas de réseau téléphone, il n'y a même pas de Wi-Fi, il n'y avait rien. Il n'y a pas de cabine téléphonique. Oui, on en avait vu une sur la route, mais je pense qu'il y avait une petite heure de marche jusqu'à la cabine. Il n'y avait rien. Puis tu es là, puis tu te dis, ben, qu'est-ce que je fais? Et la Bible nous dit, dans Matthieu 6, verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ?» Pourtant, dans ce moment-là, tes inquiétudes, elles sont quand même vraiment là. Puis tu as l'impression que tu veux prolonger la durée de ta vie en mettant tes inquiétudes en avant parce que tu dis « Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire ?» Puis en fait, ben justement, là, ça ne prolonge rien de ta vie. Tu fais que tourner en rond. Puis moi, j'étais comme ça. Puis j'étais même un peu énervé, puis machin. Et puis alors, on est revenu, on a commencé à suivre nos traces de pas. Heureusement, il y avait que nous sur la plage. Donc tu repères facilement tes traces de pas. Donc on suit nos traces de pas. Et puis, à un moment donné, on arrive... où les traces de pas, eh ben, elles sont ramassées par les vagues parce que c'était marée montante. Et puis, toujours pas retrouver la clé. Puis, t'as les vagues qui commencent à recouvrir les traces de pas. Puis là, j'étais là. Ah! Donc, les inquiétudes, tout. Et ma femme, elle, qui est extraordinairement spirituelle, elle prie. Et un peu plus loin, je marche et je vois un truc dans les vagues, balayé par les vagues. Je me dis, ouh, je m'approche. Et c'était une algue. Prie encore, chérie. Et je relève la tête et à ce moment-là, je vois un autre truc à côté de l'algue. Et c'était le porte-clés. La clé était plantée dans le sable et le porte-clés était balayé par les vagues et bougeait au rythme des vagues comme ça. Et j'ai pu prendre la clé qui était dans l'eau salée et le tic-tac, vous savez, pour la télécommande fonctionnait encore, bien qu'il y avait plein de sable autour. Et on a pu retourner à la voiture, on a pu retourner à l'hôtel. Ouais, merci Seigneur. Dieu est grand, à un tel point que quand tu es perdu au fin fond de nulle part sur une île quasi déserte, il est toujours là. Il est toujours là. Et la nouvelle, j'aimerais te dire aujourd'hui, que j'aimerais nous dire aujourd'hui, c'est lui qui tient les clés. C'est lui qui tient les clés. Il tient les clés de ta vie. Il tient les clés de la France. Il tient les clés quand tu es perdu au milieu de nulle part. C'est lui qui a les clés. Cherche pas les clés ailleurs. Vous savez, j'aurais pu. En plus, il n'y avait pas de réseau, donc j'aurais pu espérer que quand même, le président de la France, mon sauveur, allait envoyer, je sais pas, l'armée française venir, le GIGN venir à notre secours. J'aurais pu espérer qu'il y aurait des sauveteurs qui allaient arriver. J'aurais pu espérer que je sais pas, un satellite là-haut nous voit sur cette terre et puis nous envoie quelque chose. Tu peux espérer plein de trucs. On était seul. Mais Dieu, lui, il est là. Mais lui, il est là. Et il ne t'abandonne pas. Vous connaissez l'histoire, quand on a, peut-être tout le monde ne la connaît pas, mais quand on est arrivé avec mon épouse à Toulouse, il y a 3 ans, on n'avait pas de maison, on n'avait rien, juste que Dieu nous avait appelés ici. Et c'était 3 jours avant de déménager, avant d'arriver à Toulouse, que Dieu nous a trouvé la maison. On avait le camion qui était loué, tout qui était prêt pour le déménagement, on arrivait sans avoir de maison. Et Dieu nous a donné la maison. Et là, ces temps, on vit des temps assez particuliers avec ma famille. Plein d'épreuves, ça n'arrête pas les unes après les autres. Puis je vous promets que là, de nouveau, les angoisses. Mais à chaque fois, je me dis, non, mais Dieu tient les clés. C'est lui qui a les clés. Et c'est lui qui tient tout entre ses mains. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Mes amis, en préparant ce temps ce matin, j'avais plein de pensées, plein de versets, plein de trucs dans ma tête. Puis je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Et chaque fois, le Seigneur me ramenait à cette dimension-là, que c'est lui notre sauveur et qu'on doit se confier en lui. Que peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, et la France est dans un moment, et le monde même est dans un moment de doute, de question, mais c'est lui notre sécurité. Il y en a plein autour de moi qui, justement, là, qui disent « Ah, ben, le nouveau président, ou alors le président qui va rester encore en place, va tout changer. » Puis tout le temps en train de se plaindre de la France. Mais j'ai envie de dire, mais vous savez, les autres pays, c'est pas mieux autour de nous. Ma sœur, elle vit en Angleterre. Avec le Brexit, je peux vous dire que leur pouvoir d'achat, c'est pas la France, c'est bien autre chose. En Suisse, le pays où l'or coule le long des murs, ce que les gens croient, je vous remets qu'il y a d'autres difficultés. J'ai des amis, mon beau-frère qui sont au Canada, il y a d'autres soucis. Aux États-Unis, il y en a d'autres, et partout. Il ne faut pas croire que c'est la faute au président. Il y a une réalité dans ce monde où les puissances de ce monde s'acharnent. Mais notre confiance, elle est en l'Éternel. Proverbe 29, 25. C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Arrête de confier devant les hommes, tu tombes dans le piège. Confie-toi en l'Éternel. Psaume 118, 8 à 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Purée, rappelons-nous ça. Et rappelle-le à ceux qui sont autour de toi qui mettent leur confiance dans les grands. Mieux vaut mettre ta confiance en l'Éternel. Heureux l'homme, psaume 40, verset 5. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Qui c'est qui a dit que tel président, je ne vais pas dire de nom, est menteur? Qui c'est qui a dit que tel autre candidat ou candidate est menteur, etc.? On est tous... Qui c'est qui dit ici qu'il n'est pas menteur? Moi, je laisse vite la main. On est tous à se faire avoir par ça. C'est pourquoi on se confie en l'Éternel. Vous avez compris ce que j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin, c'est que c'est lui qui tient les clés. C'est lui qui tient les clés. J'aimerais vous donner encore un verset. Ce verset, s'il est proclamé 7 fois dans la parole. Quand un verset est proclamé 7 fois dans la parole, c'est peut-être pour qu'on le retienne quand même. La première fois qu'on le trouve, on le trouve dans le psaume 110, verset 1. C'est un psaume de David. Il est dit ceci. « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Qui est-ce qu'ici a des ennemis? Il n'y en a pas beaucoup. Pas à ta droite. Qui est-ce qu'ici qui a des difficultés en tout cas? Puis que ces difficultés, tu ne sais plus quoi en faire. Puis tu ne comprends plus rien. Puis tu prends la tête, puis tu réfléchis humainement. Comment je vais payer mes impôts? Ou comment je vais faire ceci, ou comment je vais faire cela? Qui est-ce qui se prend la tête avec ça? Assieds-toi à la droite de Dieu jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied. Tant que tes difficultés, tant que tes ennemis ne sont pas ton marchepied, c'est que tu n'es pas resté assez longtemps à la droite de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle à t'asseoir à sa droite, à la droite du trône d'autorité. Dieu siège sur son trône d'autorité. Et à la droite du trône d'autorité, il y a qui ? Jésus, notre avocat auprès du Père. Et bien là aussi, on peut être assis. Waouh ! Assis à la droite de Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est là notre place, mes amis. C'est là notre place. Alors, ne marchons pas en écoutant nos craintes. Mais ne marchons pas non plus en écoutant nos certitudes, parce qu'on n'a aucune certitude en réalité. Ne marchons pas en écoutant nos convictions humaines, mais marchons en nous appuyant sur la parole de Dieu. Parce que nos certitudes, elles sont là. Et notre conviction, elle est là. Vous savez, trop souvent, on entend des « Ah, j'ai le pressentiment que, j'ai des sentiments que. » Et c'est Chris Vallotton qui dit « Le contraire de l'espoir, c'est le pressentiment. » J'aime bien ça. Marchons pas par les pressentiments, mais par l'espérance en Christ. Amen. On va voir de grandes choses. Mes amis de Nouvelle-Calédonie, vous vivez des choses tellement fortes. Moi, je me réjouis de tous les baptêmes qu'on va avoir en abondance. Ce qu'on vit dans différentes communautés, que ce soit à Théophile, que ce soit aussi ce qu'on vit au centre-ville, ce qu'on vit ici, on va vivre de plus en plus des grandes choses. On va voir des âmes sauvées. On va voir des guérisons. On va voir des églises s'implanter partout en France. On va voir cette nation de France être bouleversée par Dieu. Parce que Dieu tient les clés. Parce que notre assurance, elle est en lui. Parce que notre espoir, il est en lui. Mes amis, il y a des missionnaires du monde entier que Dieu amène en France. Mais nous aussi, à nous nous lever. Parce qu'il tient les clés. Et si tu es dans le doute, rappelle-toi qu'il tient les clés. Amen. Alors j'aimerais prier pour vous. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur Dieu, on ne veut pas laisser le doute triompher. On sait, Seigneur, que ce n'est pas un président ou une présidente qui va nous sauver, qui va sauver la France. On sait, Seigneur, que ce n'est pas les hommes qui vont nous sauver de nos propres insécurités. Ce n'est pas notre patron qui va nous sauver. Ce n'est pas celui qui est autour de moi. Ce n'est pas un pasteur qui va nous sauver. Mais c'est toi, Jésus. C'est toi qui tiens les clés. Et tu peux agir auprès des hommes, au travers des hommes. Tu peux agir, Seigneur, par les hommes qui sont autour de nous, que ce soit le gouvernement ou des personnes en position d'autorité autour de nous. Mais les clés, nous voulons les chercher en toi. Et je prie ce matin, Seigneur, pour que ton onction soit tellement forte sur nos vies qu'on ne puisse passer à côté de toi, qu'on ne puisse pas se détourner de toi, qu'on n'écoute pas tout le temps ces peurs, ces inquiétudes en nous. Mais je prie, Seigneur, pour qu'on apprenne à entendre ta voix et à marcher par la foi. Et je prie maintenant pour celles et ceux qui sont dans le doute. Ici, il y en a plusieurs, peut-être que vous êtes dans le doute. Peut-être que vous êtes dans l'échec. Vous êtes dans l'incertitude. Vous êtes dans la peur. Vous êtes dans l'angoisse. Simplement là où vous êtes, je vous invite juste à lever votre main là où vous êtes. Si vous dites qu'il y a trop d'angoisse, il y a trop de crainte, il y a trop de peur dans ma vie, il y a trop de doute. Puis juste lever les mains là où tu es. Et quand tu tends la main, tu la tends vers Dieu et tu dis, Seigneur, je ne veux pas que le doute triomphe. Je ne veux pas que la crainte triomphe. Seigneur, je prends ta main. Je prie, Seigneur, pour tous ceux et ceux qui lèvent la main, qui puissent prendre la main de Dieu et dire, je ne laisse pas le doute triompher. Je ne laisse pas la crainte triompher. Je ne laisse pas la peur triompher. Parce que je sais que celui qui est vit en moi et qu'il a des projets parfaits pour moi et qu'il ne m'abandonnera pas, qu'il ne m'en abandonnera jamais, qu'il sera toujours avec moi. Tu peux prendre la main de Dieu et dire, Seigneur, je sais que tu marches avec moi et que tu pourvois à tous mes besoins. À tous mes besoins. Tu ne m'abandonneras pas et tu ne m'abandonneras jamais. J'aimerais prier pour celles et ceux qui se sentent loin de Dieu. Peut-être que tu te sens vraiment loin de lui. Peut-être que tu crois qu'il y a un Dieu, mais c'est comme s'il est loin de toi. Aujourd'hui, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Et il te dit, tu peux ouvrir la porte de ton cœur. Tu peux ouvrir cette porte-là et dire, Seigneur, viens dans ma vie. Alors je t'invite simplement, là où tu es, dans ton cœur, si tu as l'impression que cette porte est comme fermée, tu peux dire, Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur. J'ouvre cette porte pour que tu viennes la changer. Tu viennes changer ce qui est au fond de moi et amener ta vie, amener ta liberté. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je suis mort, mais j'ai besoin de la vie. Je ne veux pas laisser le péché triompher dans ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu te soucies de chacun d'entre nous. C'est toi qui tiens les clés. Amen.